Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir David Merle, le CEO de Bonneval Waters, l'eau minérale française de Savoie. Je suis absolument ravie de te recevoir dans L'Empreinte, puisqu'on a eu Cristaline aussi, et l'eau minérale naturelle. C'est quand même quelque chose qui est assez challengé aujourd'hui. Ouais. Alors, pas le fait de boire de l'eau, parce que je pense que sinon, on ne survivrait pas, mais le fait de pouvoir s'approvisionner de façon la plus éco-responsable possible.
Ouais.
Et Bonneval Waters, c'est assez récent, non?
Oui, très récent.
T'as monté ça quand?
Très récent.
Tu étais cofondateur aussi.
Je suis cofondateur. On a racheté une société d'exploitation qui n'avait jamais exploité en fait cette source de Bonneval, parce qu'elle n'avait jamais été exploitée. Elle est connue depuis les Romains, cette source. Elle est à 5 km de Bourg-Saint-Maurice, sur un très beau chemin, le chemin qu'on s'appelle le Cormier de Roselance, un des plus beaux cols en fait des Alpes. Elle sort, c'est une source artésienne donc de surface, qui sort d'un très très beau débit, juste à côté d'un torrent, un très beau torrent, ça s'appelle le torrent des glaciers. Et cette source qui est connue depuis les Romains, c'est une source aussi d'une eau qui sort à 28 degrés. Donc il y a une petite piscine à l'origine à côté.
Oui, parce que j'allais dire, on peut se baigner dedans.
Et on peut se baigner dedans, et d'ailleurs elle est très connue dans la région, puisque énormément de gens allaient se baigner juste à côté de la source. Alors nous, on a donc racheté une société d'exploitation, dont le but était de mettre cette eau en bouteille. Mais personne n'avait jamais réussi à la mettre en bouteille. C'est ce qu'on a réussi à faire avec mon associé.
Pourquoi personne n'avait réussi à la mettre en bouteille?
Un des gros sujets de l'eau minérale, c'est la difficulté du transport. C'est une eau qui est très fragile. Elle n'a jamais vu l'influence de l'homme pendant souvent des années. D'ailleurs,
C'est pour ça qu'elle est pure, entre guillemets.
Alors, elle est riche en minéraux, mais elle est pure de contact. Effectivement, elle n'a jamais vu l'oxygène. Elle a vu des conditions de température, de pression, de gaz qui sont très différentes des conditions de surface dans lesquelles on vit. Et en particulier celle de Bonneval, parce qu'elle passe entre 2 et 10 000 ans dans la roche, de filtration avant de ressortir, ce qui est un truc qui est absolument extraordinaire. On a du mal à s'imaginer, cette eau, elle n'a jamais vu l'influence industrielle de l'homme. Et elle sort dans un très beau débit. Et ce col qui est très beau, en fait, est un col qu'on a choisi de préserver, enfin une partie du col qu'on a choisi de préserver. Et on a décidé, nous, de ne pas mettre d'usine d'embouteillage au point d'émergence de l'eau. Ce qui, pour nous, a démarré tout un tas de sujets techniques complexes, puisqu'on a 5 km de canalisation qui passent en fait, du point d'émergence jusqu'au point d'embouteillage qui est situé sur la commune de Sées. Et ça, c'est très rare.
Et ça veut dire que vous avez dû le creuser en dessous?
On prend l'eau qui sort en surface.
Ouais.
Et cette eau, on la met dans des tuyaux, on la laisse descendre naturellement des tuyaux. Il y a 200 mètres de dénivelé.
D'accord.
Et elle descend dans des tuyaux jusqu'au point d'embouteillage. Et ces travaux, en fait, la complexité justement de neutraliser l'eau et de la garder en tout point intacte sur tout ce chemin entre le point d'émergence et le point d'embouteillage, c'est une grande difficulté technique qui nous a fallu des années en fait avant de résoudre et que personne avant nous avait essayé de résoudre. Parce que ça coûte beaucoup de temps, d'argent et d'inventivité. Tout ça pour protéger, parce qu'on voulait protéger ce cadre visuel. Et aujourd'hui, si tu vas sur le Cormier de Roselance, en fait, ça se voit pas. On a rendu sa beauté originelle au site. Il y avait un vieil hôtel tout en ruine qu'on a viré. On a tout fait, en fait, pour que tu vois que la nature quand tu montes sur le chemin du col.
Mais c'est hyper audacieux, quand même, de lancer une marque d'eau, sachant qu'aujourd'hui, c'est quand même... Et puis, on a eu l'occasion de se rencontrer avant, c'est quand même un vrai sujet. Aujourd'hui, comment on associe quand même eau à bouteille en plastique, malheureusement, parce qu'on n'a pas encore réussi à installer un autre contenant. Et tu me parlais très justement de dissocier le contenu du contenant juste avant. Aujourd'hui, créer une marque d'eau, selon moi, c'est hyper audacieux parce que on n'achète plus de l'eau par goût, c'est plutôt par nécessité quand on n'a pas trop le choix. Aujourd'hui, la plupart des Français, je raisonne de façon nationale, mais parce que j'ai pas pu aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais si on a une gourde, on la remplit parce que c'est aussi plus économique d'avoir de l'eau du robinet, etc. Il y a plein de choses qui font que si on peut boire de l'eau potable au robinet, on le fait globalement, d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique. Comment une marque d'eau aujourd'hui existe, en fait?
Alors, c'est un sujet qui est passionnant.
Thèse, antithèse, synthèse.
Déjà, qui est très français.
C'est vrai. Mais c'est vrai. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne me suis pas aventuré, tu vois, en dehors. Je ne connais pas. Donc, je ne peux pas m'aventurer. Alors,
c'est très, très français. Et en France, en fait, on a une chance extraordinaire, c'est d'avoir une relativement bonne eau potable. Okay.
C'est vrai.
Et puis, avec des critères de potabilité qui sont nationaux, d'ailleurs. Et la potabilité, qu'est-ce que c'est ? L'eau potable, c'est... Je trouve ça... tu me diras, je suis minéralier, mais l'eau potable, je trouve ça génial. C'est grâce à l'eau potable que la société s'est développée, qu'il y a tout un tas de choses comme l'électricité. Sans l'eau potable, nous n'existerions pas. Donc, il y a une valeur folle dans l'eau potable. Mais l'eau potable, c'est une eau qui est processée, c'est une eau qui est traitée. Tu ne peux pas avoir de l'eau potable qui n'est pas traitée. Donc, elle est traitée avec des produits chimiques, elle est filtrée, il y a tout un tas de choses.
Aujourd'hui, il y a encore certaines personnes qui achètent de l'eau en bouteille parce qu'elles n'ont pas confiance aussi dans l'eau du robinet.
Parce que dans l'eau en bouteille, enfin souvent dans l'eau minérale, en tout cas, tu sais ce qu'il y a.
Exactement.
C'est-à-dire que la description physico-chimique des données, il n'y a que ça.
Ouais.
C'est-à-dire que l'ARS, le concept en fait de l'eau minérale, c'est que ton eau est en tout point identique entre le point d'embouteillage et le point d'émergence. Tout ça, c'est analysé par toi en tant que compagnie, mais par l'ARS. C'est que tu sais exactement ce qu'il y a dans ton eau, ce qui n'est absolument pas dans le cas de l'eau du robinet. En plus, l'eau du robinet, comme on disait, elle a un goût qui est variable. L'eau minérale, c'est toujours la même. Donc le produit lui-même est un produit pur, extraordinaire.
Exactement.
Il est pur, il est absolument fou. Là, quand je te dis que c'est un cadeau de la nature, une eau qui, pour nous, a passé entre 2 et 10 millions dans la roche, qui n'a jamais vu l'influence industrielle de l'homme, qui ressort dans un débit où, en fait, toute cette eau, elle se jetait, enfin, à l'origine, dans un torrent qui a 15 fois le débit de la source. Donc, on a un impact sur la nature qui est quasiment nul. Quand on prend un truc qui sort naturellement à la surface, on se dit que c'est un cadeau de la nature, en fait, qui était inexploité. Donc, une eau extraordinaire qui n'a jamais vu l'influence industrielle de l'homme, c'est là, nous, on est rentré dans un projet, en fait, qui n'est pas un projet de contenant, mais un projet de contenu. C'est l'eau minérale naturelle de Bonneval qui nous intéresse, c'est cette eau extraordinaire. Et le faire dans une démarche la plus éco-responsable possible, en disant, déjà, on ne va pas abîmer la nature, déjà, on va s'arranger pour prendre juste une petite partie, en fait, de cette ressource. Ensuite, on le fait dans un cadre, même si on prenait 100% du débit de la source, on prendrait un 15e du torrent dans lequel elle se jette, donc un impact qui
oui, tu arrives à regarder
très, très faible.
Que,
okay. Donc, le renouvellement. Tout ça, on le connaît.
Bah, est-ce que le climat a un impact justement sur ta source ? Est-ce que le réchauffement climatique, là, on le voit, clairement, tu as vu les chaleurs, ça a un impact, toi, sur la source d'eau ou...
Alors, ça, déjà, je peux pas trop te le dire,
oui,
puisque comme l'eau, elle passe entre 2 et 10 millions dans la roche,
ouais.
on va pas avoir un impact immédiat de ce qui se passe. Mais c'est une eau, nous, on connaît, si tu veux, ce qui s'appelle l'impluvium, c'est-à-dire on connaît l'origine, en fait, plus ou moins, l'origine géographique de l'endroit où cette eau est ramassée. Et c'est sur les sommets alpins. Et sur les sommets alpins, pour nous, tant qu'il y a de la neige, si tu veux, cette neige en fondant va finir par se retrouver dans des poches de la montagne et ressortir pour faire l'eau de Bonneval. Donc, à moins qu'il y ait un arrêt complet, si tu veux, de la neige ou un changement météorologique très, très fort, on imagine mal comment l'impluvium pourrait arrêter de produire en fait cette eau dans les débits dans lesquels elle est produite. Mais avec le temps de décalage qu'on a, effectivement, on ne peut pas en être totalement certain. Mais pour en revenir sur ton point, on est rentré dans ce projet-là, nous, en étant amoureux de l'eau de Bonneval, de cette eau extraordinaire, en voulant justement la mettre dans un packaging le plus éco-responsable possible.
Parle-moi de ça, justement, parce que ça, c'est la première... C'est d'ailleurs la seule et unique question des auditeurs, c'est... Tu fais comment pour éviter le plastique ?
Tu sais, déjà, ça ne devrait pas l'être, parce que les auditeurs devraient se dire, qu'est-ce que je bois ? Est-ce que je bois de l'eau minérale ? Est-ce que je bois de l'eau potable ?
Mais aujourd'hui, le plastique a quand même un... C'est quand même un vrai sujet.
C'est un vrai sujet parce que les gens font une association folle, directe. Moi, mon éco-responsabilité, mon contrat... Quand j'adore l'eau de Bonneval, tu vois, j'adore l'eau de Bonneval, et c'est parce que j'adore l'eau de Bonneval que je décide de l'amener au consommateur. Donc, ce que je fais, c'est que je me dis, comment est-ce que je vais l'amener le mieux possible au consommateur ? Alors déjà, je te dis, je vais pas abîmer la nature au point d'émergence. Donc, je décide de remettre, en fait, la beauté originelle du site. Je tire 5 km de canalisation. On dépense des fortunes pour que ça marche. On se met une usine d'embouteillage et on se dit quel embouteillage on va faire. Et là, on fait des analyses de cycle de vie. Et d'ailleurs,
c'est exactement comme ça qu'il faut procéder. Parce que plutôt que... Parfois, tu te rends compte que le verre... Bon, ça, c'est un sujet, le verre.
Absolument.
C'est pas forcément une solution parce que ça pèse lourd, le transport, etc. Donc,
il n'y a pas d'emballage miracle, d'ailleurs. Ouais. Il n'y a pas d'emballage miracle. Et d'ailleurs, on te parle pas du transport de l'eau du robinet, mais l'eau du robinet est transportée elle aussi. L'eau du robinet, elle est traitée, elle est transportée, elle va dans des canalisations. Ces canalisations, il faut les entretenir. Il y a tout un tas de trucs qui se passent avec l'eau du robinet. L'eau du robinet, c'est pas une eau qui tombe miraculeusement, en fait, dans ton verre, dans ton robinet. Donc, les eaux sont transportées, on transporte cette eau et on fait une analyse de cycle de vie. Et on regarde, en fait, on a regardé tous les contenants qui existaient. Déjà, on s'est dit, nous, on va pas faire d'emballage à usage unique. Donc, tout ce qui est briques aujourd'hui, qui est emballage à usage unique, ça nous intéressait pas. Parce qu'on veut un emballage qui soit recyclable, et véritablement recyclable.
En fait, qu'il n'y ait pas de déchets, le moins de déchets possible.
Qu'il n'y ait pas de déchets et surtout de la réutilisation. Mmh. Donc, c'est un peu
la
équivalent.
Plus durable possible, en fait.
C'est équivalent. Donc, alors, je vais te parler un peu de façon binaire, d'accord? Je suis souvent attaqué parce que on peut me dire, quand je vais te parler du RPET, par exemple, qui est le PET recyclable.
Mmh. Il n'est pas à l'infini, c'est
il est pas. Alors, c'est pas à l'infini, c'est qu'il y a, dans le cycle de la vie du PET, imagine, donc nous, effectivement, dans les analyses de cycle de vie, ce qu'on a vu, c'est que si on faisait du 100% RPET, eh bien, on était bien mieux que du verre, de l'aluminium et, évidemment, des emballages à usage unique, qui ont ce côté catastrophique en termes d'impact. Donc, on était bien mieux. Donc, on prend nos études, on dit que du coup, on va faire du RPET. Mais qu'est-ce que c'est que le RPET? C'est du plastique recyclé. Et aujourd'hui, en fait, pourquoi c'était bien mieux? C'est parce qu'aujourd'hui, dans la filière de recyclage en France, eh bien, le RPET est recyclé. C'est-à-dire que si le consommateur qui consomme de l'eau de Bonneval dans une bouteille en 100% RPET remet son RPET dans la poubelle jaune, eh bien, dans cette poubelle jaune, si Théo te promet, alors il y a des, évidemment, il y a un taux d'incertitude sur, mais si Théo te dit, le PET qui est mis dans la poubelle jaune, moi, je l'envoie dans une filière de recyclage et il redevient du PET utilisable par les producteurs de bouteilles avec lesquels nous travaillons. Et c'est le PET, donc le plastique, c'est le plastique, enfin PET, donc c'est une formule particulière, hein. Et le seul, enfin c'est un des seuls, c'est le seul d'ailleurs qui
est. Mais tu vois, finalement, le tri, on en revient là, c'est quand même, c'est un acte citoyen. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour éduquer? Parce qu'en fait, c'est limite, ça part de là.
Et
en
donc
fait.
C'est là le problème,
mais
tu ne trouves pas que c'est terrible?
Mais c'est-à-dire si, qu'on, je suis
regarde,
entièrement d'accord avec toi.
On dit, je suis consommateur, j'adore ce débat, on dit, je suis consommateur, je déteste le plastique. Je dis, mais tu es consommateur, les consommateurs doivent être conscients comme les producteurs. Moi, mon rôle de producteur, c'est de faire un choix qui est le plus éco-responsable possible, et je te dis, c'est le RPET, et de permettre à un consommateur, si le consommateur, dans son contrat moral de consommation, recycle, eh bien, je permets en fait un cycle qui est, pas vertueux, puisque c'est quand même un cycle de consommateur, mais qui est un cycle qui est dans une démarche de tendance éco-responsable.
Est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir davantage de réglementation? Parce qu'aujourd'hui, on est un peu tiraillé, on ne doit pas culpabiliser le consommateur, mais on ne doit pas non plus être trop...
Mais consommateur comme producteur. Pour moi, enfin, la consommation, enfin, c'est là aussi, je ne vais pas parler d'économie, mais pour moi, la consommation, en fait, c'est un moment dans lequel un producteur et un consommateur se retrouvent. Et le producteur se doit, je crois, de faire des analyses pertinentes, transparentes, de l'échanger éventuellement. Tu sais, on fait des erreurs aussi, on fait des choix. Aujourd'hui, enfin, je te parlerai un peu après si ça t'intéresse, mais on a décidé de faire du verre aussi.
Après, je te dirai. Tu fais un mix, c'est un peu comme pour aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est les mix de solutions. Tu sais, on parle de mix énergétique, etc.
Ouais.
En fait, c'est un mix de solutions finalement. Bah, tu proposes des contenants différents. T'as du vrac aussi un peu?
Alors, je vais le faire. Alors, du vrac, on a une formule aussi un peu en vrac. Donc, on fait du gros contenant. Le vrac n'est pas autorisé, ce qui est malheureux, c'est un problème régulatoire.
Mais donc là, c'est ça. Là, on a un gros problème.
Alors,
aussi. Pourquoi
ouais,
c'est pas régulé? Pourquoi?
Bah, ça, c'est le régulateur. Il faut parler.
Parce que ce serait pas aux normes d'hygiène, peut-être de l'eau minérale, ce serait plus minérale.
Effectivement, on dit
coup,
que l'eau minérale est un produit. Qui n'est, bah, t'es censé jamais le toucher.
Ouais,
en fait, te promet dans l'eau minérale que ce produit n'a jamais été touché par l'homme, d'accord? C'est ce que l'ARS vérifie, valide. Et si tu fais du vrac, tu vas te retrouver dans une solution où, en fait, imaginons une solution vrac, tu prends un conteneur, je remplis un conteneur avec l'eau de Bonneval, on amène ce conteneur dans un point de vente, quel qu'il soit, et on propose aux consommateurs de venir se remplir leur bouteille en eau de Bonneval.
J'imagine que plein de consommateurs, s'ils avaient l'option en vrac d'eau minérale, qui bon, bah, n'est plus sans doute minérale pour le label, parce que bah, elle a été transportée entre deux contenants, ils seraient hyper OK. Enfin, moi, en tout cas, je serais hyper OK pour aller me servir avec ma gourde.
Et là, le ministère, je ne pense pas que le ministère des Finances nous laisse faire.
On va l'appeler. On va lui passer un petit coup de
bigo. Mais c'est un vrai sujet.
Mais c'est vrai.
La maison des eaux minérales se bat pour ça. Donc,
mais rappelle-toi l'emballage sur les légumes bio.
Oui,
les trucs en plastoc sur les. Enfin, tu vois, c'est pareil. Tu te dis, mais on marche sur la tête, là, les gars.
Mais donc, nous on cherche à donner des solutions. Donc, on est parti sur le RPET pour la raison que je t'ai donnée. En se disant, ben, nous, on dit qu'on est passeur d'eau. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le contenu, pas le contenant. Mais on est intéressé par le contenant, forcément, parce qu'on essaie d'avoir une conscience écologique. Enfin, dans notre débat industriel, je dis jamais qu'on est éco-responsable. Pour moi, c'est une absurdité. Personne n'est éco-responsable. Il faut tendre vers une démarche d'éco-responsabilité et trouver des solutions. D'ailleurs, tu sais, enfin, je parle du RPET, mais si dans les analyses de cycle de vie, on m'avait trouvé que j'attends que quelqu'un vienne me donner un autre contenant qui soit plus éco-responsable que le RPET, à ce moment-là, j'utiliserai ce contenant. Je suis pas du tout un défenseur du plastique. J'en dis, tu es un défenseur du plastique, absolument pas.
Non, tu prendrais la meilleure solution.
Je suis un défenseur de l'eau de bonne
ouais.
balle, du contenu. C'est le contenu qui m'intéresse. C'est cette eau, elle est extraordinaire. C'est une eau qui est différente de l'eau potable, qui a sa valeur aussi, mais elles sont différentes. Et dans le contenu qui m'intéresse, qui est l'eau de bonne balle, je cherche le meilleur contenant possible et donc des solutions qui me permettent, mais uniquement avec un engagement du consommateur, d'avoir l'impact le plus faible possible sur l'environnement. Et l'impact le plus faible possible sur l'environnement, c'est avec le RPET. Il y a aucun doute, parce que c'est un emballage qui est recyclable, alors que...
Quand il est bien mis dans la bonne poubelle.
Quand il est mis dans la poubelle jaune. Mais après, je pense que les producteurs doivent être responsables, et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec les dérèglements qu'on voit sur la planète, qui sont probablement liés à des industriels, mais qui sont aussi liés à des consommateurs. Ce ne sont pas les industriels hein, qui laissent traîner les bouteilles d'eau sur les plages. Il faut quand même être un peu honnête.
Comment tu les sensibilises, ces consommateurs? Est-ce que ça suffit de mettre ça sur la bouteille? Comment, est-ce que dans vos communications, tu arrives à passer le message ou est-ce que
moi, je leur parle, mais on m'attaque. Les consommateurs m'attaquent en me disant « mais c'est pas au consommateur, c'est pas la responsabilité du consommateur ». Mais ça, c'est faux. C'est qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui...
En fait, ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est la part de responsabilité de chacun.
Absolument.
C'est voilà ce qu'on vous propose, on n'a pas trouvé mieux pour le moment, et voilà ce qu'il faudrait en faire pour que ce soit le mieux. Et peut-être que c'est peut-être la façon aussi... Il y a peut-être un conflit un peu, c'est aussi pour ça qu'on a créé l'empreinte, c'est pour rétablir le dialogue entre les marques et le consommateur.
Ouais.
C'est qu'aujourd'hui, il y a peut-être des conflits un peu violents entre les deux, où il y a une grosse méfiance, une défiance même du consommateur, qui a l'impression qu'on est toujours en surconsommation.
Alors attention, je suis consommateur.
Oui, oui, oui.
Je suis consommateur, et puis je l'ai appris tout ça. Je l'ai appris, si tu veux, il y a quelques années, avant que je sois dans le minéral, si tu m'as expliqué le RPET, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? J'aurais vu du plastique. Donc là, je dis, ouais, c'est du plastique. Or, je ne connaissais pas Citeo, je connaissais pas... Il a fallu qu'on découvre tous la poubelle jaune.
On est encore trop procédurier, j'ai l'impression, tu vois, pour justement rendre... Tu vois, tu me parlais encore une fois là, de ce vrac, etc. Et j'ai l'impression que vous essayez de trouver des solutions. Mais tant qu'on aura ces pseudo-réglementations et... Enfin, pas pseudo, elles sont là, et c'est d'ailleurs elles qui vous freinent au maximum, bah, vous ne pourrez pas difficilement avancer. En fait, vous n'avez pas... Bah, là, aujourd'hui, tu pourrais faire de plus.
Bah, si. Alors, si, aujourd'hui, bon, tu as des formats. Tu as des formats, donc tu essaies de réduire la quantité de plastique par litre d'eau consommée. Donc, on a un format, donc... On a lancé un format bag-in-box qui te permet de le faire.
Bag-in-box, c'est comment
cube.
En fait
c'est un cube en carton en fait.
Ouais.
Avec
un peu
poche.
Comme les. Comment ça s'appelle, les trucs de vin, les cubis de vin.
Voilà, c'est exactement ça.
Donc
on a maximisé, si tu veux, la quantité de produits recyclables en fait sur le sujet. Donc là, c'est une poche en carton dur, donc recyclable, comme du carton. C'est un cube en carton avec une poche en plastique à l'intérieur.
Donc, il reste un peu de plastique, en fait.
Qui reste un peu plastique, mais qui te réduit par 10 la quantité de plastique par litre d'eau consommée, et qui est les deux, tu peux les séparer et donc les recycler.
Mais est-ce que le consommateur va les séparer et les recycler?
Après, c'est au consommateur de le faire.
Et c'est combien de litres, tu me dis?
Alors, nous, on fait, tu peux les faire de ce que tu veux. Nous, on a un 5 et un 10 litres.
Ok, donc ça se transporte à la... Tu vas le chercher dans ton magasin ou...
Tu vas le chercher dans ton magasin. Okay. Tu vas l'acheter dans ton magasin. Ça te permet donc d'avoir ce format qui te permet d'acheter. Donc... Mais alors, nous, c'est ça, mais d'autres ont des grandes bonbonnes, etc.
Ça peut être une vraie solution.
Je pense que c'est un démarrage de solution. C'est de réduire la quantité de plastique par litre d'eau consommée. Mais après, à nouveau, quel que soit le cadre de la consommation... Il faut que le consommateur puisse recycler. Tu sais, si tu as des piles, les piles sont terribles pour l'environnement. On te parle du plastique, mais imaginons les piles. Demande aux gens, mais qu'est-ce que vous faites de vos piles? Je jette dans la poubelle. Déjà, il faut des poubelles spéciales pour les piles qu'on n'utilise pas. Donc, on a tout un tas de sujets autour de la consommation inconsciente qui doit changer. Pour moi, alors certes, l'industriel doit offrir des solutions transparentes, et je pense...
Informer de l'impact, informer de ce qu'il faut en faire. Peut-être, tu vois, par exemple, de l'emballage. Je pense qu'il y a peut-être aussi des personnes qui n'ont pas forcément accès à l'information. Si sur le dos, tu dis, voilà, ça par exemple, ta pochette... Cette partie-là, tu la mets dans cette poubelle, celle-là dans cette poubelle. Bah, c'est à causer,
oui, non, ça, on le fait.
Ah, bah voilà.
Bah, non, mais
tu vois, il y en a qui le font peut-être pas. Enfin, tu vois, qui mettent juste recycler. Très bien, bah recycler, je fais quoi avec
c'est
ça
comment,
tu vois
comment recycler?
C'est ça, c'est plutôt comment je fais de façon très simple, en fait.
Ouais, alors. Tu sais,
t'as tous les trucs sur l'étiquette où tu vois rien et.
Ouais.
Tu vois, truc
c'est
juste
vrai.
Simple.
Non,
voilà, ça, tu mets un schéma, tu mets un petit bonhomme, tu mets ça, tu mets là, tu mets là. Et bah, c'est à causer.
Dans la poubelle jaune.
C'est ça, tu montes une poubelle jaune. Enfin, en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est sans. Il faut qu'on soit beaucoup plus transparent, beaucoup plus simple. Et puis, il faut montrer l'exemple, tu vois.
Bah oui, il faut montrer l'exemple. Et puis, à nouveau, je pense qu'on fait de mauvais amalgames. Je pense que déjà, il faut, d'un point de vue consommateur, il faut choisir ce qu'on consomme et pourquoi. C'est ma tomate bio. J'achète, je veux boire de la tomate bio. Je veux manger de la tomate bio.
Boire, tu peux la boire, tu la presses. Tu peux aussi la boire.
Tu veux, en fait, un aliment dont tu connais, si tu veux, la provenance, quelque part, l'appellation, comme on disait. Donc, tu vas vers de l'eau minérale. Donc, déjà, tu choisis, en fait, ton contenu. Et après, tu choisis ton contenant en fonction de ton appétit au recyclage, ce que tu souhaites recycler ou tes croyances. On entend des consommateurs aujourd'hui nous disent « j'en peux tellement plus du plastique que je veux consommer de l'alu dans de l'alu ». Aujourd'hui, tu as des gens aussi qui décident de consommer de l'eau en canette. Donc, il y a des vendeurs d'eau en canette parce que tu as des consommateurs qui...
Et cette canette, c'est quoi l'impact par rapport à du plastique ?
Alors, l'avantage de l'alu, c'est que c'est recyclable aussi,
ouais.
Mais c'est très énergivore. C'est-à-dire que ça te fout une quantité d'énergie folle, en fait, pour refondre l'alu et lui redonner forme.
D'accord.
Ce qui n'est pas le cas, ce qui est pas le cas du plastique. Alors,
comparativement, tu as des débats, ça donne quoi, du coup ?
C'est un peu moins bien. C'est un peu moins bien. C'est clairement moins bien que du 100% APET, mais c'est moins bien.
D'accord.
A priori,
donc, en fait, le calcul n'est pas bon. C'est juste un rejet du plastique sans calculer, finalement, le...
Alors, le calcul est compliqué, d'ailleurs. Quand je parle d'analyse de cycle de vie, ce sont des calculs qu'on a fait faire et qu'on a fait auditer, d'ailleurs, dans le syndicat des minéraliers, hein, qui a des études, on a fait des études externes, qui sont revues. Ce sont des calculs compliqués. Parce qu'ils doivent prendre en compte un certain nombre de paramètres, notamment les filières de recyclage. On parle d'un pays, évidemment, puisque là, je te parle de la filière de recyclage en France. Il y a des niveaux, il faut calculer des distances moyennes, en fait, de transport des déchets.
En fait, ce qu'il faut juste se dire aujourd'hui, parce que j'imagine qu'après là, nous avoir écoutés, nos auditeurs vont se dire, mais alors, c'est quoi la solution optimale ?
La solution, c'est une solution d'engagement. Je pense qu'en France, à mon avis, enfin, à nouveau... Là, je me permets, même sans être un expert, mais je me permets un avis, et donc forcément, c'est subjectif.
C'est ton avis.
C'est mon avis. Mais aujourd'hui, quand je me pose la question de savoir si je devais consommer de l'eau minérale, d'ailleurs, je consomme de mon eau minérale parce que j'aime l'eau minérale, parce que je comprends la valeur de l'eau minérale.
Est-ce qu'on pourrait ramener à terme nos gourdes, je ne sais pas, en magasin, pour remplir nos gourdes par de l'eau minérale ?
Alors, c'est le sujet du vrac. C'est qu'aujourd'hui, c'est impossible. C'est-à-dire que le régulateur, c'est plus de l'eau minérale et on n'a pas le droit de le faire. C'est-à-dire que les ministères nous empêchent de le faire. Bon, sachant qu'il y a des régulations européennes pour donner un peu de crédit à la France, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où la France est plutôt progressiste sur le sujet. C'est quand même une position plutôt positive pour essayer de nous aider dans ce sens-là, parce que pour nous, c'est la solution. C'est un problème, on a un problème au niveau de l'Union européenne qui est...
Qui bloque.
Parce que d'autres producteurs d'eau minérale, d'autres embouteilleurs d'eau minérale sont contre le sujet. Mais parce qu'à nouveau, la perception française, je dis, elle est très française. Ça pourrait t'intéresser un jour de voir ce qui se passe à l'étranger, mais là, la vie autour de l'eau minérale et du contenant est relativement différente.
Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nos auditeurs ? Peut-être des perspectives, peut-être une note positive.
Quelque part, les industriels se doivent d'avoir une démarche intelligente, transparente, analytique. Se doivent aussi d'accepter de faire des erreurs et de changer. Tu sais, s'il y a un meilleur contenant qui sort, de le reconnaître. Et après, les consommateurs se doivent aussi, je pense, de s'interroger en fait, sur ce que font les industriels et puis de voir comment eux peuvent aussi participer dans un cycle. Parce qu'à nouveau, la consommation, c'est une rencontre entre un industriel et un consommateur. Et que le consommateur a une part importante pour moi à jouer dans une tendance d'éco-responsabilité. On est dans un système qui est complexe, et le système n'est pas contrôlé que par l'industriel, ni par le consommateur, mais probablement par les deux. Et que ce système, pour bien fonctionner, nécessite une entraide et une compréhension entre consommateurs et industriels.
Merci beaucoup. Merci pour cet échange. J'ai appris plein de trucs. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.
Merci.